RFI, 9h à Paris, 7h en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Arthur Ponchelet, un maestro, une symphonie inachevée, un homme curieux de tout. Pluie d'hommage après la mort d'Amadou Bagayoko.
La légende de la chanson malienne, moitié du duo Amadou et Mariam, s'est éteinte hier à l'âge de 70 ans. Ses amis honorent sa mémoire. Ce matin, on entendra Soro Solo dans ce journal. L'actualité, c'est aussi cette menace mise à exécution. Ça y est, la première salve de droits de douane de Donald Trump est entrée en vigueur cette nuit. 10% sur les produits importés aux États-Unis, et on le verra, cela a aussi des conséquences sur le tourisme. Journée de manifestation nationale en Espagne, le ras-le-bol des Espagnols face à la crise du logement dans les grandes villes. Trouver un appartement relève souvent du casse-tête. Au sommaire également, la détresse et la colère en Haïti 3 jours après une nouvelle attaque des gangs, et puis le plan blanc déclenché pour les hôpitaux de la Réunion, l'île de l'océan Indien frappée par une épidémie de chikungunya.
Quelques notes diffusées en boucle à la radio dans les sonos des fêtes de quartier au Mali, c'était en 1989. Amadou et Mariam chantaient Terela Sebe.
Une complainte pleine d'humilité, d'humanisme et d'optimisme à l'image de leur carrière. On a appris hier soir la disparition d'Amadou Bagayoko, moitié de ce duo légendaire. Il avait 70 ans, avait chanté pour Barack Obama, ouvert la Coupe du Monde de foot en 2010 et refermé les Jeux Paralympiques de Paris. La musique malienne perd l'un de ses plus beaux ambassadeurs. Ses amis saluent aujourd'hui sa mémoire, Youssou N'Dour, Manu Chao ou encore Fally Ipupa. Tous pleurent la mort d'Amadou Bagayoko. À l'image de Soro Solo, il est spécialiste des musiques africaines.
En France, leur succès a explosé avec l'album produit par Manu Chao et puis ensuite par surtout Un Dimanche à Bamako. Mais pour nous, Africains, c'est pas ça le vrai succès d'Amadou Mariam. La musique d'Amadou Mariam, c'était une musique de déconstruction des superstitions africaines, d'ouverture des consciences par rapport aux problématiques sociales, aux croyances superstitieuses. C'est d'abord ça que nous retenons. Et c'est ça, ça se trouve dans des chansons comme Terela Sebe. Si on traduit, ça veut dire l'amulette de la journée. Ce sont cette amulette qu'on accroche au cou d'une fille ou d'un garçon qui est né aveugle, et donc on estime qu'il est, c'est un enfant maudit, et on le stigmatise en lui accrochant une allumette, et c'est ce qu'on retrouve dans Terela Sebe. Et c'est pour moi, ça fait partie des chansons emblématiques qui ont fait la carrière d'Amadou et Mariam. C'est pas Un Dimanche à Bamako.
Soro Solo avec Loïc Bussière, la vie et l'œuvre d'Amadou Bagayoko. On y revient longuement sur notre site RFI.fr où vous pouvez aussi lire toutes les réactions après sa disparition.
Annoncé mercredi et redouté depuis, les nouveaux droits de douane américains sont entrés en vigueur cette nuit.
Plus 10% pour la grande majorité des produits importés aux États-Unis. Et ça ne fait que commencer puisque les majorations pour les pays jugés hostiles doivent entrer en vigueur mercredi. Jamais je ne changerai de politique, a dit hier Donald Trump. Réponse du président américain à la débâcle des marchés financiers. Wall Street a par exemple connu sa pire semaine depuis la pandémie de Covid. Il y a les conséquences économiques là à court terme de ces mesures. Il y a aussi l'impact sur l'image des États-Unis à l'international depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Exemple, en France, ce matin, où de moins en moins de voyageurs veulent traverser l'Atlantique. Une baisse des réservations de près de 25%, disent les professionnels du secteur. Léonard Jochem s'est rendu dans une agence de voyage de la banlieue parisienne et l'effet Trump y est bien présent. Reportage.
Devant la vitrine, Françoise considère les options, sauf une, les États-Unis.
Enfin, avec ce qui se passe, le petit président, là, le copain de Poutine et tout, avec tout ce qu'ils sont en train de faire et tout, non.
Ce ne sera donc ni New York ni Californie pour elle cet été. Inès non plus n'ira pas. Le climat politique la gêne, mais...
Si on propose avec un bon prix, etc., pourquoi pas ? C'est peut-être pas ce qui va m'arrêter complètement de dire que ce soit Trump à la tête.
À l'intérieur de l'agence, Lucie est responsable. Dans ce secteur depuis 30 ans, le malaise autour de Trump, c'est du jamais vu.
Je crois que ça fait peur à pas mal de gens. D'emblée, les gens parlent des États-Unis en disant bah, « je n'irai pas ».
Ici, le nombre de voyages chez l'oncle Sam a été divisé par 2 en un an.
Là, les gens, ils me disent « ce type est fou, on ne veut pas aller là-bas ». Presque tous les jours, on reçoit des messages des États américains, de la Californie, de la Floride, enfin de tous les États, qui nous disent « attention, il y a une baisse de demande sur les États-Unis, il faut continuer de dire à vos clients de venir aux États-Unis ».
Lucie l'assure, c'est le Canada qui rafle la mise. Les réservations ont presque triplé. Le malheur des uns fait le bonheur des autres.
Reportage Léonard Jochem, la politique de Donald Trump qui effraie les touristes étrangers, qui suscite aussi la colère d'une partie des Américains. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues du pays aujourd'hui pour dire non à l'arsenal des mesures déployées par Donald Trump depuis son retour au pouvoir.
On manifeste aussi en Espagne aujourd'hui, mais cette fois contre une crise qui gangrène le pays depuis des années, celle du logement.
Des millions d'Espagnols en souffrent dans les grandes villes, difficile de trouver un appartement. Et quand ils sont disponibles, c'est souvent à des prix exorbitants. Illustration à Madrid, avec une habitante que notre correspondant François Musso a rencontrée.
Marina n'a que 24 ans, elle vit chez ses parents avec sa sœur. Elle se prépare pour être bibliothécaire grâce à un concours. Pour elle, pour toutes ses amies, pour toute une génération, vivre dans un logement propre est quelque chose d'inconcevable. Pour plus tard, peut-être.
Mon plan, mon projet est sur 10 ans. Dans 10 ans, essayer d'obtenir un appartement en propriété, sûrement avec ma sœur, car seule c'est impossible.
Elle le voit dans son quartier Opéra, dans le centre de Madrid. Les appartements touristiques, les investisseurs ont tout envahi. Et c'est ce que réclament les organisateurs. En finir avec le négoce du logement, car c'est un droit. Mais ce n'est pas le cas, comme dans le quartier étudiant de Moncloa, que Marina connaît bien.
Je connais par exemple le cas d'un appartement pas si grand à partager pour 3 étudiants, entre 600 et 800 euros par mois, sans compter les charges. Simplement locataire et 3 personnes.
Marina et sa sœur seront bien sûr présentes à la grande manifestation. Elles voient que Madrid se vide de ses habitants, jeunes et moins jeunes, car de moins en moins de gens peuvent s'offrir le luxe d'y résider. François Musso, Madrid RFI.
La guerre en Ukraine et ses bombardements, toujours des missiles et des drones russes, se sont abattus à Kryvyi, 18 morts dont 9 enfants et une 60aine de blessés. Et un symbole, puisque cette ville du centre du pays est aussi la ville natale de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui s'est exprimé hier. La Russie ne veut que la guerre, a-t-il dit. Moscou ne veut pas de cesser le feu.
7h08 en temps universel, 3h08 à Port-au-Prince. En Haïti, la violence des gangs continue de semer la terreur.
Dernière illustration en date, l'offensive de Mirbalais, c'est au nord de Port-au-Prince. Il y a 3 jours, les gangs y ont mis le feu à des maisons, dont celle d'anciens parlementaires. Résultat, plusieurs milliers de personnes ont dû fuir le centre-ville. Ils racontent leur détresse avec Peterson Luxama à Port-au-Prince.
L'attaque des gangs armés à Mirbalais plonge des habitants de cette ville dans le désarroi. Des maisons incendiées, des familles contraintes de fuir sous les balles, la ville perd son vrai visage en un temps éclair, témoigne Fanfan, journaliste basé à Mirbalais.
La ville est littéralement détruite, c'est une ville en détresse, on lance régulièrement des appels à l'aide. Beaucoup de personnes sont portées disparues, leurs familles sont sans nouvelles. On ne sait pas s'ils sont restés coincés chez eux ou s'ils ont été tués quelque part.
Parmi les déplacés, certains ne sont pas originaires de Mirbalais. Patrick, venu de Port-au-Prince depuis plusieurs mois pour se faire soigner à l'hôpital universitaire de Mirbalais, dit avoir vécu l'une des expériences les plus marquantes de sa vie.
C'était vraiment terrible. Je n'avais jamais vécu une chose pareille. J'ai passé beaucoup de temps à Port-au-Prince. J'y ai vu des choses, mais ce qui s'est passé à Mirbalais, c'est au-dessus de tout. Pour moi, c'est une première.
Si certaines familles ont eu le temps de récupérer quelques effets personnels de leur maison avant que les bandits passent à l'action, ce n'est pas le cas de Johnny, dont la maison a été incendiée.
Tout s'est passé très vite. J'ai juste entendu des gens crier « Voilà les bandits !» Puis des maisons ont commencé à brûler. Moi et ma famille, on n'a rien pu emporter. Heureusement, ma grand-mère a eu le réflexe de prendre quelques papiers importants avant qu'on quitte les lieux en courant.
Que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province, les gangs armés continuent de défier les autorités en place qui, jusqu'à présent, n'arrivent toujours pas à trouver la meilleure formule pour faire revenir la la paix dans le pays. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Les civils gazaouis continuent de payer le prix de la guerre d'Israël contre le Hamas. L'armée israélienne a lancé une nouvelle offensive au sol à Gazaville. Elle a fait au moins 30 morts, dit la défense civile palestinienne. Une opération qui crée une situation extrêmement dangereuse pour les otages, a dit hier le Hamas. Benjamin Netanyahou, lui, est toujours englué dans le scandale du renvoi du chef du Shin Bet. La procureure générale d'Israël accuse le premier ministre de conflit d'intérêts dans cette affaire. Un tissu de mensonges, a réagi Benjamin Netanyahou. On vous raconte les détails de ce scandale politico-judiciaire sur notre site RFI.fr.
6000 nouveaux cas enregistrés chaque semaine. Un système hospitalier sous tension. L'île de la Réunion déclenche le plan blanc face à l'épidémie de chikungunya.
Symbole de mobilisation maximale sur l'île, il doit permettre de reprogrammer des opérations et de rappeler du personnel. C'est une première depuis l'épidémie de Covid en 2020. Coïncidence ou pas, ce plan blanc intervient alors que les élus locaux dénoncent la faiblesse des moyens déployés pour faire face à l'épidémie. Il intervient aussi juste avant l'arrivée du ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Pour Céline Sitouze, vice-présidente de la région Réunion, c'est tout de même un peu tard.
C'est très inquiétant, mais aussi révoltant. Les premiers cas ont eu lieu au mois d'août. C'est pas la première fois dans notre histoire que nous connaissons une épidémie de chikungunya. Nous sommes aujourd'hui concernés, nous réunionnais, face à la mobilisation de l'État et de l'ARS face à ce phénomène que l'on connaissait et qui impacte totalement nos familles. Deux premiers morts. Ça veut dire que c'est extrêmement grave pour ces gens. Et nous avons là un traitement de la situation qui est en dessous des attentes des réunionnais. Il aura fallu plusieurs mois avant que l'État ne se décide à faire en sorte que le vaccin soit gratuit. Pour une toute petite partie de la population, ça ne permet pas de protéger la population.
La vice-présidente de la région Réunion, Céline Sitouze, avec nos confrères de Réunion la première ce matin. On apprend aussi qu'un cas de chikungunya a été détecté en Martinique. Il s'agit d'un patient originaire de la Réunion. Un mot de sport, du foot et de la Ligue 1. Hier, l'OGC Nice s'est incliné face au FC Nantes. 1-2 et voit la Ligue des Champions s'éloigner. En Ligue des Nations, l'équipe de France poursuit son sans faute. 3 victoires en 3 matchs pour les Bleus qui se sont imposés hier face à la Suisse, 2-0. En Bundesliga, le Bayern Munich s'est imposé 3-1 à Augsbourg et prend provisoirement 9 points d'avance sur Leverkusen. Et puis la CAN U17, c'est au Maroc que ça se passe. Le Sénégal et la Tunisie se neutralisent 0-0 et restent donc co-leaders du groupe C. Un mot de Formule 1 aussi, c'est le Grand Prix du Japon ce week-end. Et on connaît la grille de départ. Le Néerlandais Max Verstappen partira en pole position au volant de sa Red Bull. Toujours compté sur le Néerlandais dans ce championnat de Formule 1. Le journal des sports, c'est dans une demi-heure, Julien Coquel.
Et ce sera avec Antoine Grenier. Merci beaucoup, Arthur Ponchelet. Bonne journée à vous. RFI Matin, la suite. Un nouveau point sur l'info africaine et la mort d'Amadou Bagayoko à nouveau à la une. Dans moins de 20 minutes, on en reparle d'ailleurs d'ici là, avec quelques archives des passages d'Amadou et Mariam au micro de RFI. À suivre également l'européenne de la semaine et la première ministre danoise qui tient tête à Donald Trump et son projet d'annexion du Groenland. Mais tout de suite, c'est la revue de presse. Et Catherine Potet, on commence évidemment avec la presse malienne qui pleure la disparition d'Amadou Bagayoko.
Amadou s'en est allé, l'Afrique perd l'un de ses chœurs qui chantait, titre Sahel Tribune. Musicien aveugle, à la voix chaude et à la guitare habitée, il laisse derrière lui une œuvre majeure, symbole d'un Mali rayonnant, d'un amour éternel et d'une Afrique qui chante même dans l'obscurité. Pour Mali Actu, il était l'icône de la musique malienne, moitié du duo légendaire Amadou et Mariam. Ce couple unique, ajoute Mali Actu, a su fusionner les traditions musicales maliennes avec des influences modernes telles que le blues, le pop et le rock. Le Mali et le monde entier pleurent la disparition d'un génie musical, mais son héritage perdurera à travers sa musique, que son âme repose en paix. De son côté, le journal du Mali retrace la vie d'Amadou depuis sa naissance le 24 octobre 1954 à Bamako jusqu'à son décès hier. Il était aveugle depuis l'âge de 16 ans en raison d'une cataracte congénitale. C'est sa rencontre avec Mariam Doumbia à l'Institut des jeunes aveugles de Bamako en 1975 qui a véritablement lancé une aventure artistique unique En couple, dans la vie comme sur scène, Amadou et Mariam sont devenus des ambassadeurs de la culture malienne.
À la une de la presse internationale également, ce matin, une vidéo accablante pour l'armée israélienne.
Détail macabre, cette vidéo a été découverte dans le téléphone portable d'un ambulancier retrouvé avec 14 autres travailleurs humanitaires dans une fosse commune à Gaza. C'est le New York Times qui se l'est procuré. Cette vidéo montre que les ambulances et le camion de pompiers à bord desquels les travailleurs se déplaçaient étaient clairement signalés et avaient leur feu de détresse allumé lorsqu'ils ont été frappés le 23 mars. Or, poursuit le New York Times, un porte-parole de l'armée israélienne, le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, a déclaré en début de semaine que les forces israéliennes n'avaient pas attaqué au hasard une ambulance, mais que plusieurs véhicules avançaient de manière suspecte, sans phare ni feu de détresse, vers les troupes israéliennes, les incitant à tirer. La vidéo, précise le New York Times, montre que le convoi humanitaire s'arrête à l'approche d'un véhicule, une ambulance qui a été attaquée un peu plus tôt et qui s'est déportée sur le bord de la route. Des secouristes, dont au moins deux portent leur uniforme, sortent d'un camion de pompiers, d'une ambulance marquée du croissant rouge, précise le New York Times. Puis des coups de feu intenses retentissent, la caméra tremble, puis la vidéo s'éteint, mais le son n'est pas coupé. En arrière-plan, on entend les voix de travailleurs humanitaires et de soldats affolés criant des ordres en hébreu. Le haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Volker Türk, estime que cet épisode soulève de nouvelles inquiétudes quant à la commission de crimes de guerre par l'armée israélienne.
À la une également, la réplique de la Chine après l'instauration de nouveaux droits de douane par Donald Trump.
En réplique aux nouvelles taxes imposées par les États-Unis sur les produits chinois, Pékin annonce que des droits de douane supplémentaires de 34% vont s'appliquer à partir du 10 avril sur toutes les importations de biens américains, nous explique le quotidien français La Croix. Après l'offensive protectionniste de Donald Trump, la Chine contre-attaque, titre de son côté Libération. Et que dit-on en Chine ? Pour le quotidien anglophone mais très officiel China Daily, d'importantes et immédiates mesures ont été prises, hausse de 34% des droits de douane donc, mais ce n'est pas tout. La Chine annonce aussi des restrictions immédiates à l'exportation de terres rares, si chères à Donald Trump. Le China Daily cite aussi un chercheur chinois, Bai Ming, qui tient à donner de la hauteur aux décisions chinoises. Ces mesures, dit-il, il ne vise pas seulement à protéger les intérêts de la Chine, mais aussi à préserver la stabilité du commerce mondial. Pékin panique, assure de son côté Donald Trump. La bataille ne fait que commencer.
Catherine Potet, merci beaucoup. Elle tient tête à Donald Trump et semble prête à poursuivre le bras de fer avec le président américain sur le Groenland. Mette Frederiksen est l'européenne de la semaine sur RFI. Bonjour Julien Chavannes.
Bonjour.
La première ministre du Danemark résiste face au projet de la Maison-Blanche de faire main basse sur le territoire contrôlé par Copenhague.
Et elle est depuis mercredi au Groenland, invitée officiellement par le nouveau premier ministre groenlandais. Visite symbolique et politique forte. Mette Frederiksen avait un message clair à faire passer.
Les États-Unis ne doivent pas s'emparer du Groenland. Le Groenland appartient aux Groenlandais.
Julien, sa fermeté face à Donald Trump est saluée dans le pays.
Oui, aujourd'hui, sa résistance lui donne un coup de boost dans les sondages. Elisabeth Sven est éditorialiste politique au grand journal danois Politiken.
Elle est bien plus populaire auprès des électeurs danois qu'elle ne l'était auparavant. Son gouvernement a été très impopulaire car les gens ne comprenaient pas pourquoi les libéraux de droite et la gauche pouvaient collaborer. Ces partis, habituellement éloignés les uns des autres, sont généralement des adversaires politiques.
Une fermeté que les Danois ont déjà vue. Pendant la crise du Covid, elle avait marqué les esprits. Mette Frederiksen n'avait pas hésité à ordonner l'abattage de tous les visons du pays avant de s'excuser en larmes devant les caméras. Ce n'est pas pour rien qu'on la surnomme la dame de fer scandinave. Dès son arrivée au pouvoir, elle a mené une politique anti-migrant.
Pourtant, la dame de fer était auparavant surnommée Mette la Rouge. Que s'est-il passé ?
Eh bien, ses passages au ministère de l'Emploi et de la Justice l'ont changé. Mais ce virage idéologique est aussi stratégique. Mette Frederiksen a voulu contrer l'essor des nationalistes du Parti du Peuple danois, comme nous l'explique Niels Dahl. Il analyse la politique danoise au quotidien Jyllands-Posten.
Yes, the Social Democrats were to keep its position. Si les sociaux-démocrates voulaient conserver leur position de premier parti au Danemark, elle a décidé qu'il fallait combler l'écart entre eux. Donc sur le plan politique, elle a fortement orienté son parti vers la droite, avec une politique très stricte en matière d'immigration, et en même temps, elle a orienté sa politique économique un peu plus à gauche, ce qui a été un facteur clé de sa victoire électorale en 2019.
Mette Frederiksen s'est engagée en politique très jeune. À 15 ans à peine, elle rejoint le Parti social-démocrate. L'ascension est express. À 24 ans, elle est élue au Parlement. À 41 ans, elle devient la plus jeune première ministre du pays, avec un style parfois autoritaire, comme nous le raconte le professeur Rune Sturbanger.
Elle aime obtenir ce qu'elle veut et elle n'a pas peur de faire pression, surtout au sein de son parti. Elle veut que les députés suivent la ligne du parti et qu'ils s'y tiennent. On l'accuse de concentrer trop de pouvoir autour d'elle, tant au sein du parti qu'au sein du gouvernement.
Pour le journaliste Nils Dell, la force de Mette Frederiksen, c'est justement d'aimer le pouvoir.
Elle aime l'avoir et elle aime l'exercer. Elle n'a jamais hésité à user de son pouvoir si elle en avait l'occasion pour faire ce qu'elle jugeait nécessaire. Et je pense que c'est en quelque sorte sa plus grande qualité, sa capacité à accomplir des choses, sa volonté de le faire quand elle le juge nécessaire.
Et Julien, que sait-on de sa vie à côté de la politique ?
Pas grand-chose. Mère de deux enfants, elle s'est remariée avec un réalisateur de cinéma. Elle aime cuisiner des plats traditionnels danois et elle le fait savoir sur Instagram. Un événement l'a marqué en juin 2024. Mette Frederiksen est agressée par un homme. Il la frappe violemment sur une place dans le centre de Copenhague. On sait aussi qu'elle a acheté récemment une ferme à la campagne où l'attend sa vie d'après la politique.
Mais à 47 ans, elle a encore du temps. Cela fait plus de 5 ans qu'elle est au pouvoir. C'est quoi la suite pour Mette Frederiksen ?
Eh bien, rester au pouvoir. Les prochaines élections sont prévues en novembre et elle a de fortes chances de remporter un troisième mandat avec peut-être une nouvelle coalition. La suite pourrait aussi l'amener à un gros poste à la tête de l'Union européenne ou encore à l'OTAN.
L'européenne de la semaine, Julien Chavanne, merci beaucoup. Vous écoutez RFI, il est 7h22 à Bamako. Il s'appelait Bagayoko Amadou de son prénom. Il était le Amadou de Mariam, la moitié de ce duo mythique à la ville comme à la scène. Amadou Bagayoko s'est éteint hier au Mali, il avait 70 ans et sur RFI, on se souvient ce matin des nombreuses fois où Amadou et Mariam nous ont fait l'honneur de venir dans nos studios, notamment au micro d'Alain Pilot, où ils nous racontaient ce lien indéfectible qui les unissait.
Vous dites « ne me laisse pas seul dans la solitude, dans la crainte et dans l'angoisse ». Vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours tous les deux, Amadou et Mariam, du matin au soir.
Oui, toujours, du matin au soir, oui.
Vous ne lâchez pas.
Ah, je pense pas, hein.
Non. C'est quoi la recette de...
Je dirais non.
C'est quoi jamais. Quelle est la recette de votre réussite de couple? Parce que vous travaillez ensemble, vous vivez ensemble.
Oui, la réussite, c'est parce qu'on travaille ensemble, on va dans la même direction.
D'accord.
Nous faisons les mêmes genres de musique et nous sommes tous handicapés. Et on est mariés, mariés et femmes.
Oui, vous êtes aveugle, mais vos parents ont pas été très heureux quand ils ont su que vous alliez vous marier à l'époque. Hein,
non, ils avaient des inquiétudes.
Oui.
C'est ça. Ils avaient des inquiétudes parce que pour eux, deux aveugles se marier, bon, ils avaient des inquiétudes. Ils se demandaient comment ça allait se passer.
Et ça se passe très bien.
Oui, ça se passe très bien, oui, parce qu'on les a montré la preuve que ça pouvait se passer très bien et ils étaient avec nous.
Avec trois beaux enfants.
Oui, c'est ça, oui.
Les inséparables Amadou et Mariam dans la bande passante sur RFI, c'était en 2012.
Show, 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 show. Eh, Malien, on est pas au folla. Ah, Malien, on n'est pas au folla.
C'est pas facile. C'est pas facile.
Il avait appris les percussions dès l'âge de 2 ans, la flûte et l'harmonica à 10, puis la guitare. C'est dans l'Orchestre National du Mali, les orchestres de Niarela, de Koutiala qu'il avait fait ses débuts. Et puis Amadou avait rejoint l'Institut des Jeunes Aveugles de Bamako. C'est là que lui et Mariam s'étaient rencontrés. Tous deux nous racontaient leurs débuts, pas facile en effet. notamment lorsqu'ils étaient partis en Côte d'Ivoire tenter de se faire un nom dans les années 80.
Un jour, on a fait le concert, il n'y avait que deux personnes. On était déçus ces jours-là, mais on n'a pas croisé les bras. On a pris le courage, c'est tout. On dit qu'on va, aller, on n'a qu'à prendre le courage. Ça ira. Donc oui, on a fait ça.
Il n'y a pas que ça, non seulement qu'il n'y avait que deux personnes.
On a perdu notre guitare aussi dans le taxi. On a oublié ça dans le taxi.
En plus.
Ces jours-là, vraiment, on n'a pas pu dormir à cause de ça. Mais on a pris le courage jusqu'aujourd'hui.
Puisque l'objectif, c'était d'aller en Côte d'Ivoire pour pouvoir trouver des producteurs. Bon, si on se décourageait, je pense qu'on serait retourné au Mali et qu'il n'y aurait pas eu de produits.
C'est vrai.
Donc, là, c'est pour cela que je disais que rien n'est facile dans la vie. Donc, il faut toujours voir le mauvais côté. Comme ça, la difficulté, ça forme beaucoup. Donc, en affrontant des choses difficiles, on arrive à gérer les problèmes et on arrive à trouver les solutions.
C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile.
Des débuts difficiles, bientôt effacés par la notoriété, Amadou et Mariam sont bien vite devenus des stars planétaires. Et ce n'était pas sans risque, comme Amadou nous le racontait à nouveau dans la bande passante.
En Côte d'Ivoire, on était tellement populaire qu'il y avait des quartiers où on ne pouvait pas aller. On ne pouvait pas aller parce que là, c'était beaucoup dangereux pour nous. Les gens, chaque fois qu'on partait, les gens, tout le quartier sortait. Et les gens, ils voulaient nous toucher. Et des fois même, ils ont failli soulever la voiture. Et c'était un peu compliqué.
La voix et le rire d'Amadou Bagayoko, disparu hier à l'âge de 70 ans à Bamako, sa voix toujours mêlée à celle de Mariam et leur musique qui les aura fait voyager dans le monde entier, du Mali aux États-Unis, de la Coupe du Monde 2010 au JO de Paris en 2024 et même en 2009 devant Barack Obama lorsqu'il avait obtenu le prix Nobel de la paix. On les écoute encore un peu, Amadou et Mariam, sur leur titre mythique « Beau dimanche ». Interprété en public sur RFI, c'était en 2005.
Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les djemé et les dounous résonnent partout. Les balais et les tamas résonnent partout. La kora et le goni sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Héba. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous. Les copains et les voisins sont au rendez-vous. Les founais et les djennis sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les hommes et les femmes ont mis les beaux boubous. Les bijoux et les chaussures sont au rendez-vous. Les basés et les bongonas sont au rendez-vous. La mariée et le marié sont aussi au rendez-vous.
Et que la terre lui soit légère, Amadou Bagayoko, que le monde de la musique pleure depuis hier soir, repose en paix, maestro, écrit l'artiste congolais Fally Ipupa, qui préparait un projet avec lui. Et Mariam, je n'oublierai jamais son amitié d'Youssou N'Dour. Ces mots aussi de Manu Chao, qui avait produit l'album Dimanche à Bamako. On sera toujours ensemble, avec toi, partout où tu iras. Mariam, Sam, toute la famille, votre peine et ma peine, je vous aime. Des réactions que vous retrouvez sur RFI.fr. Et à Bamako, il est presque 7h30.
C'est les jours de mariage. 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 Olé ! C'est les jours de mariage. Yeah.
Salut, c'est Assalfo. Et revoilà le FEMIA. La 17e édition du Festival de musique urbaine d'Anoumambo vous attend du 15 au 20 avril prochain à Abidjan et Daloa sous le thème civisme et sécurité routière. Cette année, vous aurez Angélique Kidjo, Caris, Smarty, Takana Zion, José, Imra et plein d'autres artistes pour mettre l'ambiance. Le FEMIA, c'est aussi le volet social avec l'inauguration des écoles primaires Magic System de Badika, Jacquesville et San Pedro.
En partenariat avec RFI. Anoumambo
est béni. C'est ça qui est la vérité.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.